Bonjour, bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je n'avais pas vu certains d'entre vous. Et c'est vraiment une joie de vous revoir en ce début d'année scolaire qui recommence. Alors avant de commencer le message, je vais vous faire un petit témoignage sur mon voyage au Togo. De 2 semaines, donc qui s'est déroulé les deux dernières semaines d'août, dans le cadre d'une association donc chrétienne que certains connaissent, c'est EFF, Espérance pour les familles dans la francophonie. C'était l'occasion pour beaucoup de missionnaires de se retrouver. Alors, des missionnaires surtout africains, qui venait de 7 pays d'Afrique et l'équipe française et aussi 2 personnes de Suisse. Et ça a été l'occasion à la fois de croiser les expériences, non seulement d'évangélisation, mais surtout de fortification du corps de Christ. Puisque c'est le cœur de la mission, puisque c'est une mission en fait, mission EFF, c'est de fortifier les familles, de fortifier les couples, de fortifier les enfants, de fortifier aussi les jeunes au niveau de la sexualité et notamment d'abstinence avant le mariage. Donc les motiver et puis surtout leur apporter un cadre équilibré. Et puis la base de la base, c'est notre identité en Christ. Cette identité qui peut tout changer. À partir du moment où on en est conscient. Voilà, alors, donc c'était 15 jours exceptionnels. Exceptionnels dans plusieurs sens, déjà de rencontrer des personnes pour lesquelles je priais moi depuis plusieurs années, mais je n'avais même pas les visages, je n'avais pas leur voix, je n'avais pas leur témoignage, à part les petits témoignages qu'on recevait sur les rapports de mission. Et ce sont, pour la plupart, des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens humains, mais qui, en Christ, dans leur foi, trouvent les moyens pour faire des choses que nous, nous pourrions sans doute pas faire, parce que nous sommes pas dans cette façon de vivre. Quand on n'a pas beaucoup, on est obligé de compter sur Dieu pour avoir plus. Mais compter sur Dieu complètement, c'est-à-dire pour vivre. Il y en a qui sont à plein temps, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont rien, et au jour le jour, ils avancent. Eh bien, l'entendre, c'est une chose, mais voir ces gens vivre et raconter. J'ai passé beaucoup de temps à écouter, à poser des questions, déjà aussi pour voir si comment je pourrais à nouveau prier pour eux, mais surtout pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin encore, comment nous on peut les aider. Donc on peut les aider surtout par nos prières, par l'intercession. Et c'est vrai que j'ai pris un engagement suite à ces 15 jours, c'est de m'engager auprès de certains d'entre eux pour les soutenir par la prière pour leur sujet personnel. Pas forcément pour les sujets de la mission, parce que là il y a un groupe de prière, il y a un groupe WhatsApp, donc où chaque personne qui va en mission donne ses dates, donne voilà où elle va aller, ce qu'elle va faire. Donc là il y a des gens pour prier. Par contre pour les sujets personnels du quotidien, la famille, les enfants, ceux qui restent pendant que le père ou la mère se déplace, là il n'y a pas grand monde pour prier pour eux. Et il y a des épreuves. Ils les racontent pas forcément. Mais quand on leur pose des questions, ils en parlent. Alors voilà, et ça a été aussi l'occasion de se réjouir, bien sûr, ensemble, de pouvoir... l'Afrique, les champs, c'est vivant. C'est très vivant. Quand on est revenu d'un de nos voyages dans un car, alors un car... on va dire un transport en commun... moi ça m'a rappelé, je suis revenu 40 ans en arrière, une des rares fois quand j'étais jeune, je revenais, on est revenu de colonie de vacances. Eh ben, c'est exactement la même chose. C'est le chant d'arrivée à Lomé, c'était la fête. Ça chantait à tue-tête, c'était en plus le cœur de Dieu qui chantait. C'était exceptionnel. J'ai un petit enregistrement de 2 minutes là-dessus, ça vaut le coup, quoi. Là, on sentait vraiment que c'était vivant. Et c'est vrai que, j'avais envie de rester. Pour ça, c'était quelque chose qu'on n'oublie pas. Bon. Maintenant, ça veut dire aussi que l'épreuve n'empêche pas la joie. Parce que la joie vient de Dieu. Elle vient de l'Esprit Saint. Et quand on ouvre la porte à l'Esprit Saint, il n'y a rien qui peut la refermer. Aucune épreuve. Et pourtant. Après, on était aussi là pour aller, entre guillemets, évangéliser. On s'est séparés, on était là aussi pour donner les formations. Donc les formations sur la famille. Moi, l'expérience que je peux donner, on s'est retrouvé un jour, donc on partait donc de l'Atécana. L'Atécana, c'était un centre qui se trouvait à 2 heures de route, donc où on logeait à ce moment-là. Et donc on revenait sur Lomé, et on a été séparés. On était 40 encore. On a été séparés en 8 équipes pour aller donner dans 8 centres, 8 centres de jeunes qui sont pris en charge par l'association Compassion. Je pense que certains de vous connaissent. Compassion, c'est aussi en lien avec le SEL, l'association SEL. Et donc, on s'attendait à avoir dans chaque centre de cette capitale entre 100 et 250 jeunes. Donc, on était 4 dans notre équipe. On est arrivé, on a été très bien reçus. On a vu concrètement que effectivement, il y a des gens sur place qui prennent soin des enfants. Des enfants qui sont très très grand nombre. Le Togo est un des pays d'Afrique où la moyenne d'âge est très basse et où l'espérance de vie est de 54 ans. Donc je n'ai très rarement croisé des personnes âgées. La plupart du temps, elles sont derrière dans les maisons. Et dans la rue, c'est des jeunes. Des jeunes, jusqu'à 30, 40 ans. Parce qu'en 40 ans, on est toujours jeune, hein. Et même en Afrique. Donc, ça faisait mal de voir certains de ces jeunes errer dans les rues. Errer, sans but, attendre. Quoi? Avec, des fois, 3 petites choses à vendre, pendant des heures, sans avoir personne à qui les vendre. Ça fait mal, quoi. Et quand on voyait ces jeunes ailleurs, dans ce centre à Compassion, avec les enseignements, avec la vie qui sortait d'eux, avec l'enseignement de la parole qui leur a été donnée, là, on voyait la différence. Donc, pour ceux qui soutiennent ici, notamment les 4 enfants, par le sel, sous couvert de compassion, je peux vous dire que cet argent n'est pas gaspillé. Pour ce que j'ai vu au Togo, franchement, il y a un suivi. Et oui, moi je vous encourage à continuer. Parce que ces gens-là, comme j'ai pu l'occasion de leur dire, sont l'avenir de leur pays. Et l'avenir de leur pays, c'est quoi l'avenir d'un pays? C'est la famille. La famille qui est la cellule de base de la société. Les enseignements qu'on donnait, c'était des enseignements sur la famille. Malheureusement, beaucoup de familles, et ici, mais également là-bas, sont déchirées. Bon, pas forcément par le divorce, pas forcément par la séparation, mais des fois par simplement le deuil, la maladie. Donc, ils ont besoin, ces jeunes, nos jeunes, ont besoin d'entendre des choses qui leur font du bien, qui les équilibrent, qui leur donnent un cadre. Et ça, c'était une joie, un privilège de pouvoir leur enseigner quelque chose. Les yeux étaient grands ouverts, les oreilles aussi. Et voilà, c'était aussi donc sur ce plan-là un moment inoubliable. Après, on a fraternisé et on s'est retrouvé un moment. On avait un peu cette impression d'être sur la montagne avec Moïse en présence de Dieu. parce qu'on était tous unis, on avait tous la même vision. Et puis au fur et à mesure des jours qui passaient, les gens partaient. On se retrouvait moins nombreux et on redescendait de la montagne. Moi j'étais dans ceux qui sont partis les derniers. À la fin on n'était plus que trois. Mais il y avait toujours ce qu'on avait vécu. C'était toujours là. Et chacun est reparti avec quelque chose en lui qu'il n'avait pas au départ. Ne serait-ce que l'enrichissement des autres. Ne serait-ce aussi que un raffermissement de la foi. Et c'est pour servir encore. C'est pas pour le garder pour soi. Donc moi je vous le partage aujourd'hui. Mais je vous encourage, aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que le prochain, il peut être n'importe où, n'importe quand. Et on est trop bloqués, nous, dans notre société, par des a priori, par des mécanismes en nous, j'en parlerai tout à l'heure sur le combat spirituel. Et donc, on n'ose pas, parce que on est bridé, quoi. Et le Seigneur, c'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande d'aller. Il nous demande de profiter de chaque occasion. Et tous ceux qui sont revenus chez eux avaient ça à cœur. De pouvoir continuer à servir, de pouvoir utiliser ce qu'ils ont appris, l'expérience des autres. Et pour la plupart d'ailleurs, de continuer sur le cheminement qu'ils avaient déjà commencé. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Pour la plupart là-bas, c'était juste un plus, mais le chemin était déjà tracé. Bon, après, bien sûr, il y a eu les petits inconvénients. Le retour a été plus un peu compliqué. Mais un témoignage par rapport à ce retour. Je rebondis sur ce que disaient tout à l'heure Emmanuel et Anne-Marie. La prière, voir la présence de Dieu. Lorsque j'ai voulu reprendre mon avion au retour, je me suis présenté pour mon bagage. Alors, au début, la veille, l'avion était annulé. Bon, ok. Donc, la compagnie nous a pris en charge, on s'est retrouvé à l'hôtel. Ça va. Le lendemain, on se représente à l'aéroport, donc on était quand même... l'avion était plein, hein, donc on a été dispatché dans pas mal d'hôtels. Et puis, moi j'étais dans les premiers, parce que, bon, pour une raison que maintenant je comprends, ils nous ont fait partir 4 heures avant. Normalement c'est 2 heures, on était à 10 minutes de l'aéroport, bon, ok, on arrive, je lui dis, bon, tant qu'à faire, allons-y. Donc j'arrive au moment de l'enregistrement des bagages, donc qui était plus tôt que prévu, tant mieux. Mon bagage passe, pas de problème, c'était une autre compagnie. Il me dit, bon, voilà, les poids, etc. Okay. Ensuite, je me présente au service de l'immigration. Et là, ça commençait à mal se passer. Pour une raison toute simple, à cause du retard de l'avion de la veille, mon visa était expiré. Bon. Sauf que j'ai senti qu'il y avait autre chose. Quand je regardais les personnes, j'ai senti qu'il y avait vraiment une opposition. Comme j'avais jamais senti avant. Une opposition, donc j'ai attendu. J'ai attendu 3 heures. 3 heures que quelqu'un vienne. Et à chaque fois, j'allais tous les quarts d'heure pour essayer de voir le responsable, le fameux responsable. Et à un moment, au bout de 2 heures, je vois un gars qui vient. Et avec un visage très fermé, très dur. Il me dit, vous pouvez pas partir. Vous êtes en situation illégale. Ah bon ? Alors, bon, moi j'ai eu le réflexe de dire, mais attendez, il m'a dit, je ne veux pas savoir qu'il y a un retard. Vous êtes en situation légale. Bon. Juste après, j'ai la compagnie qui vient me dire, votre bagage, il revient. Il y a un problème à l'enregistrement. Bon. Donc, là, le bagage, donc je me retrouve avec mon bagage, revient. Je me retrouve à faire la navette entre le service de l'immigration, la compagnie et l'embarquement et la compagnie. Et là, je me suis dit, il faut que je peux pas m'en sortir tout seul. Donc, dans ce fameux groupe de prière, où beaucoup de gens sont en direct, j'ai exposé le problème. Tout de suite, j'ai eu des réponses. On va prier pour toi. J'ai eu 20 réponses. Et juste derrière, j'ai vu l'agent de la TAP, donc la compagnie portugaise, qui m'a dit, je vais tout faire pour que vous partiez. Mais il s'est levé d'un coup. J'étais pas le seul, hein. J'étais le premier, mais j'étais pas le seul. Il y en avait derrière qui attendaient. La compagnie m'avait donné une heure stricte. C'était 18h10. À partir de là, je partais pas. Sauf que, entre temps, j'avais plus rien, quoi. Et le bagage, je l'avais récupéré, j'avais plus où loger, j'avais plus rien. Donc, j'ai demandé à prier. J'ai eu Yves aussi. Je lui ai envoyé un message par WhatsApp. Et j'ai attendu. Et là, j'ai vu que les choses se mettaient en branle. Le gars de la compagnie a été voir l'immigration. Ils se connaissent, hein. Mais c'était toujours fermé. Et puis, petit à petit, comme j'ai dit, le ciel s'éclaircit. Le bagage, j'ai eu un autre papier qui m'a dit, retournez voir la compagnie. Retournez voir la compagnie, il m'a dit, ok, on prend votre bagage. Il était 18h05. Ensuite, l'immigration. L'immigration, je suis retourné et l'agent de la TAP a dû acquitter aux frais de la compagnie une taxe supplémentaire pour prolonger mon visa. Ça se fait normalement en 24 heures. Ça s'est fait en 40 minutes. Ça, c'est pas moi, c'est pas lui. Enfin, c'est la main de Dieu qui agit. Donc, et ça, j'en suis absolument persuadé, ce sont les prières en live. Et je tenais au courant en même temps avec 2-3 mots, parce que je ne suis pas un pro de WhatsApp, mais maintenant je commence à bien connaître, tous ceux qui priaient pour moi, qui m'avaient soutenu déjà moralement, parce que ce n'était pas évident. Bon, c'est pas tout à fait fini. Je passe l'immigration, ça passe. Ensuite, il y a les bagages, passés sous le rayon X, etc. Bon là, alors j'étais bourré à craquer. Je ne pouvais pas prendre rien d'autre. J'en avais dans les poches, j'en avais dans le sac, j'en avais tout. J'étais au taquet au niveau du poids. C'est passé à bon plus de 100 grammes, c'est passé. Je passe et je me suis dit, bon, enfin, ça y est, c'est fini. Ce que j'ai pas compris, c'est que derrière, encore après, au moment de l'embarquement, il y avait un deuxième contrôle et là, ils ouvraient les bagages à main. Et ils fouillaient. Et ils avaient aussi le détecteur. Et moi, j'en avais plein les poches. Et l'avion, donc il allait partir. Et le gars, il me passe le détecteur, ça sonne. Le temps d'enlever tout, bon, c'est bon, quoi. Et je regarde, et là, j'ai vu quelque chose dans son visage. J'ai vu quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. Il m'a dit, je sais ce que vous avez dans les poches, passez. J'ai pas compris. Ça sonnait, j'en avais plein, j'aurais dû tout sortir. Les autres qui étaient à côté de moi, ils ont tout sorti. Et moi, je suis passé. Bon, voilà. Ça c'est pour moi un témoignage, parce que je sais que c'est pas, ça vient pas de moi, c'est pas normal, parce que si ça avait été normal, je serais pas parti. Parce qu'au dernier, au tout dernier moment, on était deux, j'avais une personne qui avait la chambre à côté de moi à l'hôtel, qui était au moment où notre vol avait été annulé la veille, qui était avec moi. On se présente les deux en même temps. Elle n'a pas eu de problème à la douane, son visa était encore bon. Mais au moment où on arrive pour le billet qui était prêt, l'embarquement, la femme scanne son billet. Elle dit à l'autre femme, vous ne pouvez pas partir, vous n'êtes pas enregistré, il y a eu une erreur sur les places. On avait tout passé, la douane, l'enregistrement, tout. À ce moment-là, la place avait été attribuée deux fois. Pourquoi ? Parce que c'était pas la compagnie initiale, la place était déjà là. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau informatique. Du coup, elle n'est pas pu partir, une deuxième nuit à l'hôtel. Non, c'est la compagnie qui allait la reprendre en charge, mais quand même, elle travaillait. On ne peut pas savoir ce qui va se passer à l'avance, mais on peut prier. Donc ça, c'est un témoignage, voilà, qui va directement avec le Togo. Bon, j'en ai d'autres, mais je vais arrêter là parce que je vois que le temps tourne. Bon, j'avais prévu en deux parties, donc je ferai qu'une partie. Comme ça, ça rattrapera le temps. Voilà, moi, ce que je peux vous encourager, c'est de continuer à prier. Et je veux juste une toute dernière fois rebondir sur Anne-Marie par rapport à hier. Oui, effectivement, on est amené à rencontrer, notamment sur ce genre de stand, des personnes qui sont opposées à Dieu, à la religion. Parmi elles, il y en a certaines qui ont été blessées par les représentants de Dieu. Il faut le savoir. Plus les anciens, certes. C'est-à-dire qui, au point d'avoir été écœurés, et quand on leur parle de religion, tout de suite, même si ça fait 50 ans en arrière, ça revient. Et ces gens-là, avant tout, ont besoin d'être accueillis, pas qu'on leur parle de Dieu, d'être accueillis, d'être écoutés, de compatir, de prier avec eux, éventuellement, ou pour eux. Et ensuite, lorsqu'ils pourront comprendre que le Dieu qu'ils avaient en tête n'est pas le Dieu de la parole, on pourra commencer à évangéliser, mais pas avant. Voilà. Donc, alors c'est vrai que le message que je voulais vous donner ce matin, ça parle du combat spirituel, et c'est quelque chose que j'avais à cœur depuis un moment, mais qui a été vraiment d'actualité pendant les 2 semaines que j'ai vécues là-bas au Togo, et les 3 semaines qui ont précédé dans les formations que j'avais préparées pendant nos vacances. Bon, je ne veux rien vous apprendre en disant qu'on vit une époque unique dans l'histoire du monde, dans le sens où l'oppression des pensées de ce monde dans l'esprit des hommes n'a jamais été aussi fort, aussi puissant, par l'intermédiaire des médias. Au XXe siècle, on a eu la radio, ensuite on a eu la télé, ensuite on a eu Internet, ensuite on a eu les réseaux sociaux. Avant il y avait les journaux. Le temps passé devant ces médias ne cesse d'augmenter. L'influence des pensées véhiculées par ces médias, plus ce temps est long, plus ça rentre en nous, plus ça forge nos pensées, plus ça conditionne nos comportements. Ce n'est pas anodin. Et c'est pas nouveau. Le Seigneur connaissait déjà ça depuis longtemps. Il connaissait la créature humaine qu'il avait lui-même donc créée. Et on peut voir déjà du temps de Josué, lorsque la nouvelle génération est sortie du désert, l'Éternel avertissait déjà les 12 tribus d'Israël, de tous les peuples qui étaient aux alentours, et aussi des peuples qu'ils allaient chasser en conquérant la terre promise. Et malgré cet avertissement, on peut voir avec le temps et les siècles qui ont suivi que ce peuple d'Israël allait adorer les dieux, influencés qu'ils étaient. Non pas par les journaux, non pas par Internet, etc., mais simplement par l'exemple. Et puis parce que, voilà, les témoignages, les mariages aussi, des enfants avec des même si c'était interdit, mais avec les croisements. Et on allait donc, pendant des centaines d'années, même des milliers d'années, et c'était le temps de l'ancienne alliance. Et donc l'homme a eu largement le temps de s'égarer loin de Dieu. Revenait, mais il y avait un problème de maturité. Et puis, il y a 2000 ans, le Christ est venu s'incarner sur terre. Il a enseigné quelque chose qui était révolutionnaire à l'époque. Il a changé la donne. Il a donné une promesse qui n'était plus pour un peuple physique, mais pour un peuple spirituel. Et tous ceux qui allaient marcher dans ses pas avaient les clés pour ne plus être impactés autant que les autres, suivre son exemple, aimer et pouvoir être libre. Libre des chaînes du diable. Parce que, bon, je sais que dans notre société, contrairement en Afrique d'ailleurs, Parler du diable, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Il y a plusieurs raisons pour cela. Il peut y avoir la peur. Il peut y avoir le fait qu'on ne le connaît pas, donc on ne parle pas forcément de ce qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a aussi le fait... qu'est-ce qui va se passer derrière ? Et puis surtout, le diable, comme le dit la parole, se déguise en ange de lumière. On a du mal à le voir. On a du mal à croire qu'il existe. Et du temps du Christ, vous vous rappelez l'épisode dans le désert, la tentation dans le désert, où le Christ s'est montré vainqueur par trois fois, et donc par là même a pu montrer les trois points d'emprise du diable, qui sont l'orgueil, la chair et la convoitise, les yeux notamment. Il l'a vaincu. C'est un exemple aussi pour nous. À partir du moment où on a une arme offensive, parce que le combat spirituel, c'est au moins deux personnes qui s'affrontent, au moins. Et puis, pour pouvoir s'affronter, il faut pouvoir se battre. Et donc, pour se battre, il faut des armes. Et l'arme dont parle notamment l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, l'arme offensive, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et nous avons la parole de Dieu. Nous l'avons plus que les anciens du temps de l'Ancienne Alliance, parce que bien sûr, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Et nous avons maintenant la possibilité, à partir du moment où on forge une confiance absolue dans tout ce qui est marqué, alors ça devient une arme puissante. Et alors, on peut contrer toutes les ruses du diable qui agit dans le monde et qui s'immisce partout, jusque dans nos pensées. Et le combat spirituel, c'est d'abord le combat de nos pensées. Vous n'aurez pas à lutter contre la chair et le sang, et contre toutes les puissances des ténèbres, dans les lieux occultes, etc. C'est là que ça se passe. Et à partir du moment où on ne discerne pas ces pensées extérieures, à partir du moment aussi où on les laisse s'infiltrer, c'est-à-dire on leur favorise, on leur laisse la place, elles vont venir. Et il va falloir trouver les moyens de les faire partir. Et le seul moyen de les faire partir, c'est de les remplacer par des autres, parce que la nature a horreur du vide. Et pour remplacer des pensées négatives par des pensées positives, c'est encore la parole. Alors, je vais juste prendre une analogie pour essayer de rendre plus perceptible ça. Il y a quelques années encore, j'allais à Grenoble, donc pour mon travail, et lorsque je m'approchais de la ville, je voyais toujours au loin une espèce de nappe. Donc, c'est quoi ? C'était le brouillard de pollution. À mesure que je m'approchais, à mesure que je rentrais dedans, on ne voyait plus. On était dedans. Et donc, on ne se rendait plus compte, en fait. Peut-être un peu au niveau... si on respirait, mais on ne se rendait plus forcément compte qu'on était dans le brouillard. Eh bien, c'est un peu ça. La stratégie du diable pour pouvoir nous perdre, nous détruire, parce que c'est quand même pas anodin. Le diable veut nous détruire, non pas notre corps mais notre âme, et donc il va nous persuader qu'il non seulement qu'il n'existe pas, qu'il n'intervient pas, mais que en fait nos pensées, la façon dont on vit, tout est normal. Il va essayer de nous endormir, nous rendre tièdes aussi. Pourquoi ? Qu'on n'aille pas évangéliser, qu'on n'aille pas aider, qu'on n'aime pas. Dieu est amour. Si on est ancré en Dieu, on va aimer. Mais si on laisse les pensées du diable s'ancrer en nous, on ne peut plus aimer. Et ça, c'est grave. Et donc, ce brouillard physique peut, au niveau spirituel, ce sont des pensées. Ce sont des pensées qui, une fois qu'elles sont installées, on n'est plus conscient que ces pensées sont négatives. Parce qu'on est habitué à les avoir en nous. Elles nous conditionnent. Et si on ne fait rien, si on ne prend pas du recul, si on ne sort pas de la ville à nouveau pour voir ce brouillard, eh bien on va les laisser. On va les laisser vivre en nous. Et donc, bon, ben voilà, il y a un moyen, un moment, pour éviter que ces pensées toujours soient là, soient renouvelées, il faut se couper des sources délétères. Et les sources délétères, c'est quoi? C'est les sources du monde, ce sont les médias, frères et sœurs. Je parle de certains médias, certaines émissions, certaines séries, etc., qui nous gavent et qui nous remplissent la tête et qui n'ont aucune utilité spirituelle, voire même nous font plus de mal que de bien. Donc il y a un moment ou un autre, il faut prendre le taureau par les cornes et se protéger. J'ai eu l'occasion pendant ces 3 semaines avant de partir au Togo, où là on était coupé du monde ou presque, et d'être aussi de me couper complètement de tout média pendant 3 semaines pour bien préparer justement les 2 semaines du Togo. Et ben voilà, c'est un peu comme quand on sort de la ville et on se dit mais voilà, ben oui, comportement, pensée, etc. On perd des choses négatives, mais on ne se rend compte que quand on les perd. Parce que tant qu'on est dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais bon, voilà. Faut être très vigilant. La Bible nous dit que le monde est inimitié contre Dieu. Donc, inimitié, c'est séparation. On ne peut pas être du monde et de Dieu. On est dans le monde, mais on ne doit pas être du monde. C'est-à-dire qu'on doit, par nos comportements, nos actes, nos attitudes, nos pensées, se démarquer. La lumière de Dieu ne peut briller en nous que si les ténèbres ne sont pas là. La lumière chasse les ténèbres. Et puis, les pensées négatives donc diminuent notre ardeur, nous paralysent, nous inhibent notre volonté d'aller vers l'autre, de toucher le prochain et de lui communiquer non seulement la parole de Dieu, mais l'amour de Dieu. Nous sommes d'abord appelés à aimer. Et l'amour, ça commence aussi dans les pensées. Et donc, ces pensées se transforment en attitude, endorment notre conscience, affaiblissent notre vigilance, et plus grave, avec le temps, lorsqu'elles s'incrustent, elles transforment silencieusement, jour après jour, sous l'action du diable, nos croyances profondes. Elle gangrène notre foi, notre perception du plan de Dieu devient floue, et nous nous éloignons petit à petit de sa présence, sans forcément nous en rendre compte. Sans compter les dommages collatéraux sur notre conjoint, nos enfants, nos proches, notre milieu professionnel, toutes les personnes que, à un moment ou à un autre, on est amené à toucher. Bon, ça c'est un constat. Le tableau n'est pas rose, certes, mais il n'est pas non plus tout noir. Pourquoi ? Parce que nous avons les moyens de reprendre place dans ce qui est un combat spirituel. Le diable arrive à nous convaincre qu'on n'a pas à combattre. C'est lorsqu'on reprend conscience que nous avons un combat à mener que l'on devient fort. Si on utilise les armes de Dieu, on a toute l'armure disponible. On reprend place dans l'arène et on va au combat. Et lorsqu'on va au combat, on aura quelqu'un devant nous, ça c'est sûr. Parce qu'il va falloir se battre. C'est pas juste je mets l'armure et j'attends que ça se passe. Non. Nous allons avoir de l'opposition. Le petit détail, le petit témoignage que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je venais juste, pendant ces 15 jours, m'engager devant un certain nombre de missionnaires pour les soutenir par la prière, par l'intercession. Ça, c'est un engagement que j'ai pris aussi devant le diable. Et systématiquement derrière, tous ceux qui ont pu témoigner, lorsqu'ils prennent des engagements devant Dieu, ils le prennent aussi devant le diable, ils sont derrière, ils sont attaqués. Tout le temps. Pourquoi ? Parce que la parole nous dit que tous ceux qui veulent vivre dans la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tout simplement. C'est une réalité. Celui qui n'est pas persécuté doit se poser la question. Pourquoi ? Est-ce que je suis dangereux pour le diable ? Un moment ou un autre, on est attaqué. J'ai malheureusement un exemple tout frais. Un des missionnaires qui est rentré, camerounais, le lendemain, m'a envoyé un message par WhatsApp. Il me dit le village de mes parents, au nord du Cameroun, a été attaqué par Boko Haram. Sa maman est tombée dans le coma, par le choc émotionnel. Elle est décédée hier. Un mois avant, son épouse a perdu leur enfant mort-né. Ça, ce sont des attaques. Le diable va utiliser les personnes qu'il a réussi à aveugler, à produire la haine, la violence, etc. pour pouvoir attaquer les villages chrétiens, mais pas que. C'est tellement aveugle, il tue tout le monde. Et derrière, il y a des souffrances. Ce missionnaire, cet homme, avait commencé à être dans le découragement lorsqu'elle est arrivée par rapport à son épouse, et puis par rapport au fait que il avait fait beaucoup, mais il avait un problème de leadership et il a été remis un peu dans les rails pour savoir mieux suivre les personnes qu'il avait formées. Il est reparti tout frais. Et le lendemain, boum, ça tombe. Voilà. C'est juste une réalité. Mais derrière, il est soutenu. Ce cercle de prière est efficace. Et il se relèvera. Parce qu'il n'est pas tout seul. Et dans le combat spirituel, il ne faut jamais, jamais, jamais rester seul. Nous devons toujours, et pas forcément partir, ici, partout, chacun d'entre nous, nous devons avoir des personnes sur lesquelles on peut compter pour prier, vraiment prier, en cas d'épreuve, se sentir soutenu par la prière. Je suis content d'entendre quand je viens ici que les prières ont une efficacité parce que derrière il y a eu des gens qui ont prié. On n'est jamais aussi fragilisé lorsqu'on est seul. Mais comme l'union fait la force, alors nous pouvons vaincre, remporter le combat ensemble. Je vois qu'il commence leur tourne. Il y a plein de choses. Combat spirituel, c'est assez vaste. Mais le Christ a donné suffisamment, dans les évangiles, suffisamment de paroles pour nous tenir en alerte face au mal. Les pharisiens, les scribes, étaient les personnes, les représentants religieux, qui avaient le cœur tellement dur que la religion, déjà, à l'époque, était biaisée. L'exemple donné n'était pas le bon. Et donc, ces gens-là étaient écrasés, le peuple était écrasé. Et si nous n'y faisons pas attention, nous pouvons aussi nous laisser écraser, non pas par nos représentants religieux cette fois, mais par toute l'influence du monde qui envahit nos pensées. Et si nous voulons pouvoir toucher les personnes, il faut, dans les forums, dans la rue, à toute occasion donnée, il va falloir que nous émanions réellement la présence de Dieu par la joie, par l'amour. Et ça ne peut pas émaner si en nous, dans notre fort intérieur, nous n'avons pas la présence de Christ solidement ancrée, que l'Esprit Saint n'ait pas toute la place pour agir en nous. Ça, c'est pas moi qui vous le dis, hein. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Voilà, donc ça, je peux vous encourager à le faire. Et je voudrais terminer par une prière. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te remettre toutes les personnes qui ont été contactées, qui ont été touchées hier lors de ce forum à Villefontaine. Que les graines qui ont été semées puissent germer. Nous te demandons d'éliminer les ronces, d'éliminer tout ce qui peut être un frein dans leurs pensées. Et puis, tous ceux qui vont être dans le futur, mis devant nous, que nous puissions les toucher, que nous puissions vraiment être libres, et que nous puissions aussi nous revêtir de l'autorité que tu nous as donnée, afin que ceux qui écoutent, ceux qui voient, puissent en nous te voir, Seigneur. Merci de ce privilège d'être tes enfants, d'être mandatés par toi pour aller vers les autres. Merci de nous avoir attirés à toi. Que serions-nous sans toi? Et nous nous remettons entre tes mains maintenant. Au nom de ton Fils Jésus.